Récit de Thomas Brugnieux, chapitre 1, présentation.
Mon père, cet homme usé par le travail, qui dès son plus jeune âge taillait la pierre dans la carrière des brosses, mon père, s'adressant à moi, disait « Thomas, tu n'es qu'un fainéant !» Et dans ma tête, j'entendais comme en écho la voix de l'instituteur qui m'assénait des « Brugnieux, idiots, crétins, tu ne comprendras jamais rien. Tu es encore dans la lune. » Redescendre sur terre, moi qui ne rêvais que d'espace, de fusée. Secrètement, je jouais à Neil Armstrong, posant le pied sur la lune. Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Je relisais inlassablement le récit de l'aventure d'Apollo 11, ou celle d'Apollo 13 qui faillit tourner à la catastrophe. De rêve en jeu, de jeu en rêve, j'échafaudais les plans les plus fous. Aller sur la Lune, c'est bien, mais la Lune, c'est presque la Terre. Il faut aller sur Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et plus loin encore. Aller jusqu'au bout de l'infini. Aujourd'hui, à Parmilieu, plus personne ne sait ce que je suis devenu. Dans la mémoire des plus anciens, ne reste que le vague souvenir de Thomas Brugnieux, un enfant marginal. Les plus jeunes et les nouveaux venus au village ignorent tout de mon existence. Pourtant, je n'ai pas quitté le village. Je vis depuis de nombreuses années à Précieux, chemin du Chapiron, dans l'atelier du dernier forgeron de Parmilieu. Cette grande porte verdâtre un peu délavée. Seulement, voilà, en jouant dans le grenier de mon père, dans une vieille malle couverte de poussière, j'ai trouvé un vieux grimoire. La chronokinésie, écrit pour moitié en latin et pour autre moitié dans un vieux français. J'ai eu beaucoup de difficultés à le déchiffrer. Au fil des pages, j'ai appris comment dompter le temps, comment l'arrêter, l'avancer, revenir en arrière. Depuis cette soirée, de novembre 1984, l'horloge du temps répond à toutes mes commandes. Je me déplace dans le passé, le futur. Lorsque la faim me gagne, je me déplace après le repas. Et sans n'avoir rien consommé, je suis rassasié. Nulle obligation pour moi d'ouvrir ma porte pour quérir de la nourriture. Je joue avec le temps pour subvenir à tous mes besoins. Ainsi, d'année en année, j'ai disparu du paysage local. Mon rêve de conquérir l'espace peut maintenant devenir réalité, car je suis allé chercher dans un lointain futur les matériaux et la technologie pour construire un vaisseau capable de m'emporter aux confins de l'univers. Je me remémore la dernière phrase du grimoire. Cotus cum chronokinesis, a eternitas non potest transir celerim. Qui se traduit par attention, avec la chronokinésie, l'éternité peut passer très vite.
Chapitre 2, la préparation.
Mon vaisseau est capable de m'arracher à la Terre. de m'emporter en orbite autour de celle-ci, de stocker assez d'énergie pour changer de direction. Les panneaux solaires fourniront l'énergie pour l'éclairage, la climatisation et pour la purification et le recyclage de l'air. N'imaginez pas que j'ai ramené du futur des matériaux n'existant pas sur Terre. Non, l'idée est de créer une magnétosphère, comme celle qui entoure notre bonne vieille Terre et qui la protège des rayonnements dangereux. Non, j'ai ramené la technique et les moyens de fabriquer une magnétosphère très petite, mais très puissante, capable de contenir un homme, son matériel et l'équipement pour un vol aux confins de l'univers. Une sphère solide, pouvant résister à des forces inconnues sur Terre. Un rapide calcul m'apprend que la Terre me donnera une confortable vitesse de base.
En effet, la Terre orbite à 150 millions de kilomètres du Soleil. Elle parcourt cette orbite en 365 jours de 24 heures, soit une vitesse horaire d'environ 107 000 km/h. Donc, tout corps présent sur Terre voyage déjà dans l'univers à une vitesse de 107 000 km/h. Un peu comme cet homme, immobile sur son siège de TGV, voyage à 300 km/h entre Paris et Lyon.
En me dégageant du sol, je conserverai cette vitesse de base, que j'augmenterai par les effets de la gravitation en m'approchant des étoiles et autres corps galactiques. Je vais vous retracer mon voyage. Mais le temps n'ayant plus d'impact, j'utiliserai le présent pour vous narrer mon histoire.
Chapitre 3. Le vaisseau.
Je feuillette le dernier almanach du facteur, à la recherche de la prochaine pleine lune. En effet, pour ce premier objectif, je préfère un pilotage à vue. Mon rêve me posait sur les traces laissées par mon héros, Neil Armstrong. Aïe ! Prochaine pleine lune, vendredi 13 février. Immédiatement, je me remémore l'Odyssée et le retour miraculeux d'Apollo 13. Parti de Cap Kennedy le 11 avril 1970 à 13h13. 13h13 et moi je partirai un vendredi 13. La phrase du commandant de bord d'Apollo 13 me résonne dans la tête. Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. Prudemment, je décide un départ le jeudi 12 à 23h. Je ne suis pas superstitieux, mais les difficultés à surmonter sont assez considérables comme cela. Très méticuleusement, j'assemble mon magnétron qui me fournira un champ magnétique largement suffisant pour créer la magnétosphère constituant mon vaisseau. Le pilotage de cette bulle magnétique sera très simplement réalisé par l'orientation de petits panneaux en mu-métal. Le mu-métal, cet extraordinaire matériel constitué de nickel et de fer, a la particularité d'attirer les champs magnétiques et ainsi de pouvoir les dévier. Mercredi 11 avril, 23h. Je suis à 24 heures exactement de mon grand départ. Cette nuit, un petit vol d'essai est nécessaire. Pour accomplir les dernières vérifications, et procéder aux ultimes réglages. Devant moi, le gros bouton vert où l'on lit « Magnétron on ». Une légère pression sur ce bouton et immédiatement je suis enveloppé par le bourdonnement d'un essaim d'abeilles. Le champ magnétique m'enferme dans ce qui devient mon vaisseau spatial. À l'heure qu'il est, toutes les boussoles dans un rayon de 100 km doivent s'affoler. À cause de moi, elles ont toutes perdu le nord. Une légère pression sur les commandes d'aileron et dans une grande douceur, mon vaisseau s'élève d'un petit mètre. Je le fais pivoter lentement sur lui-même. Merveilleux. Il répond parfaitement à mes commandes. Je m'élève d'une dizaine de mètres. Je domine les toits de précieux qui luisent sous la lumière de la lune. Personne dans les rues. Seuls les chiens de l'élevage voisin aboient, sentant une activité anormale dans leur environnement. Tout se passe comme prévu. Je décide donc de faire le test de l'accélération. Go ! En quelques millièmes de seconde, je m'élève de plus d'un kilomètre. Je vois nettement sous mes pieds les différents hameaux, Argilière, Senin, Les Brosses, Chanoz, La Montagne, Subtilieu. Un peu plus loin, la grande bâtisse du Cerverin. Sur ma droite, les feux de la cimenterie Vica, et plus loin, Malville. Mes essais étant conformes à mes prévisions, j'actionne la commande « Retour » qui me ramène au sol. Je coupe le magnétron pour me dégager de mon vaisseau, heureux et tout excité. Je vais consacrer la journée de demain aux ultimes préparatifs.
Chapitre 4. Le départ vers la Lune.
Jeudi 12 février, il est 6 heures. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tellement l'excitation est grande. Mentalement, je répète la liste des documents et objets qui m'accompagneront dans ce voyage. Carte du ciel, atlas de Messier, aide-mémoire de trigonométrie sphérique, calculette, une très longue liste. 22 heures, j'actionne le magnétron au ralenti, de manière à créer mon vaisseau et ainsi de pouvoir le charger. La Lune est fidèle à notre rendez-vous. Lentement, elle apparaît vers Inimon. Énorme. Elle semble me dire « Je t'attends ». 23 heures. Je suis tendu comme un arc lorsque, magnétron plein régime, j'actionne doucement la commande de montée. En très peu de temps, je survole les toits. Doucement, je me détends lorsque Précieux s'allonge sous mon vaisseau, puis bientôt c'est tout par milieu et son cortège de hameaux. Maintenant la lune est haute dans le ciel. J'accélère l'allure de montée. 20 000 mètres. L'arc alpin est là à ma droite. Le Mont Blanc semble bien petit tout là-bas. À ma gauche, l'horizon s'incurve, comme pour me rappeler que notre Terre est bien une boule. Altitude 100 km. Cette fois, la Terre est bien ronde, même si mon altitude ne me permet pas encore de la voir dans son intégralité.
À partir de cette altitude, de 100 km et jusqu'à 500 km, il est dans une zone appelée orbite terrestre basse. C'est dans cette zone que sont largués les satellites. La traversée en est dangereuse. On y trouve des satellites d'observation militaire ou autres, et surtout une très grande quantité de déchets, débris de fusées ou d'anciens satellites, et même la station spatiale, l'ISS.
Je m'éloigne encore un peu de notre bonne vieille Terre pour atteindre à 20 000 km une zone appelée orbite moyenne.
Cette zone est utilisée par les satellites GPS. Beaucoup moins encombrée que la précédente, cette région ne pose pas de problème majeur.
J'atteins maintenant l'orbite géostationnaire, un peu plus de 35 000 km.
C'est sur cette orbite que sont placés les satellites de télévision que l'on capte avec une parabole. Sur cette orbite particulière, les satellites sont synchrones avec la Terre. Ils tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. Vu de par milieu, ils semblent fixes.
Au-delà, le terrain est libre. Direction la Lune.
La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle est le cinquième plus grand satellite du système solaire, avec un diamètre de 3474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est d'environ 384 000 km. La Lune est le premier et le seul objet non terrestre visité par l'homme. Le premier à y avoir marché est l'astronaute Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Après lui, 11 autres hommes ont foulé le sol de la Lune, tous membres du programme Apollo.
Le long de mon voyage vers la Lune, je vais passer par un point particulier, le point de Lagrange. À cet endroit, l'attraction lunaire égale l'attraction terrestre. Je serai donc en totale apesanteur.
L'attraction terrestre étant supérieure à celle de notre satellite, ce point se trouve à 347 000 km, soit presque 90% de la distance Terre-Lune.
L'apesanteur. C'est incroyable, exceptionnel. On a l'impression que notre poids s'en va. Un peu comme on peut le sentir parfois dans l'eau, mais en mieux. Je flotte dans mon vaisseau. Dans mon enthousiasme, je renverse le verre d'eau posé devant moi. Or, l'eau, au lieu de se répandre comme à l'habitude, forme une magnifique et énorme perle qui flotte à mes côtés. Passé le point de Lagrange, la pesanteur se réinstalle doucement. Les choses reprennent leur place. Devant moi, la Lune tient tout mon champ visuel, qu'elle remplit d'une lumière argentée. Sur la gauche, j'aperçois Copernic.
Le plus gros cratère de la Lune a 93 km de diamètre et il est profond de 3800 mètres. Il a été creusé par la chute d'une énorme météorite. Ce site avait été choisi pour l'alunissage d'Apollo 18. Malheureusement, le vol fut annulé pour raisons budgétaires.
Beaucoup plus à droite, une grande plaine sombre, la mer de la tranquillité. En l'apercevant d'aussi près, mon cœur se mit à battre plus fort. C'est ici que le 20 juillet 1969, Neil Armstrong posa son module lunaire. Quelques heures plus tard, il posa le pied sur notre satellite. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Immédiatement, je décide d'aller voir de plus près les traces laissées par mes héros de 1969. Bientôt, je vois la partie basse du module lunaire, car seule la partie haute était utilisée pour quitter la Lune et rejoindre Michael Collins en attente orbitale dans le module Apollo. Tout proche, le réflecteur laser, utilisé pour mesurer la distance Terre-Lune avec précision. Quelques blocs rectangulaires, sans doute le sismographe. Au sol, le drapeau américain, couché par la poussée du décollage, et tout autour de ce lieu, des centaines d'empreintes de pas. Je suis à la fois émerveillé de vivre ces moments et frustré de ne pouvoir quitter ma bulle magnétique. Bulle qui me protège des rayons cosmiques, des températures extrêmement froides, et surtout qui me fournit l'oxygène indispensable. Soudain, mon attention est attirée par une énorme boule bleutée sortant de l'horizon lunaire. Contrastant avec le gris environnant et le noir profond du ciel, très vite je réalise que j'ai la chance d'assister à un lever de terre depuis la Lune. Spectacle extraordinaire qui me fait réaliser à quel point l'homme est petit et insignifiant, perdu dans l'immensité de l'univers.
Chapitre 5 : Exploration du système solaire.
Avec quelques regrets, je dois abandonner notre satellite. Puisque maintenant, je pars à la conquête des planètes de notre système solaire. Ces planètes qui sont les petites ou grandes sœurs de notre Terre. Entre la Terre et le Soleil, notre étoile, se trouvent Mercure et Vénus. Vénus étant plus proche de la Terre, c'est vers elle que je me dirige.
Tout le monde connaît Vénus sous le nom d'étoile du berger. Vénus est la planète qui ressemble plus à la Terre du point de vue physique. Avec un diamètre de 12 100 km, une densité et une masse comparables à celles de la Terre. Cette planète possède une atmosphère dense, épaisse de 50 à 70 km, composée de 96% de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique dans les hautes altitudes. Les conditions qui règnent sur cette planète sont surprenantes. La pression est de 95 bars, soit presque 100 fois plus forte que sur Terre. Bien qu'elle soit plus loin du Soleil que Mercure, à une distance de 108 millions de kilomètres, il y fait plus de 460 degrés, aussi bien le jour que la nuit. Ceci est causé par son atmosphère épaisse et opaque d'une cinquantaine de kilomètres qui provoque un effet de serre et retient toute la chaleur reçue. Son atmosphère tourne beaucoup plus vite que la planète elle-même, avec des vents puissants soufflant vers l'ouest à 360 km/h.
Je n'ose pas pénétrer l'épaisse couche nuageuse qui transforme Vénus en une énorme boule de billard. Je suis un peu effrayé par la température régnant sous ces nuages. Me retournant, j'aperçois notre Terre grosse comme un petit pois. Où est par milieu ? Entre ma position et le Soleil se trouve l'orbite de Mercure. Je ne vois pas cette planète, car elle se trouve actuellement derrière le Soleil.
Mercure, plus petite que la Terre, est la planète la plus proche du Soleil. Son diamètre est un peu plus du tiers de celui de la Terre. Mercure n'a pas d'atmosphère, et sa surface est criblée de cratères, un peu comme la Lune.
Je tourne le dos au Soleil pour m'en éloigner. Direction Mars.
Mars, quatrième planète du système solaire, son diamètre est un peu plus de la moitié de celui de la Terre. Très longtemps, nous avons cru que la vie existait sur Mars, avec peut-être des hommes comme nous. Il a fallu déchanter lorsque Mariner 4 en 1965 a montré ce qu'il en était réellement. Pas d'hommes, pas de canaux.
Lorsque j'approche de Mars, je suis surpris par sa couleur cuivrée donnée par l'oxyde de fer contenu dans les roches. La surface ressemble beaucoup à nos déserts. Je décide de me poser dans les parages du plus haut volcan de tout le système solaire. Olympus Mons, une montagne de 22,5 km de haut. 5 fois la hauteur du Mont Blanc.
Pour les habitants de la Terre, Mars paraît être la future destination. Le voyage vers Mars mettra du temps. Eh oui, la planète Mars se trouve à une distance variant entre 50 et 400 millions de kilomètres. Ce n'est pas tout proche. La durée du voyage Terre-Mars est estimée à environ 6 mois. Et si on compte le retour, ça fait un an de trajet, avec comme lieu de vie une boîte de conserve à partager à 5 ou 6. De quoi devenir fou.
Pour l'heure, je continue mon voyage en direction de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Mais pour ce faire, je dois traverser une zone d'astéroïdes gravitant entre Mars et Jupiter.
Cette ceinture est constituée de milliards d'astéroïdes. On en compte 400 000 de plus d'un kilomètre de diamètre. On en connaît 26 de plus de 200 km. Le plus gros, Cérès, est grand comme la taille de la France.
Bientôt, Jupiter se dresse devant moi.
Une boule de nuages énorme d'un diamètre 11 fois celui de la Terre et d'un volume de 1300 fois celui de la Terre. Mais cette planète n'est faite que de gaz. Sur son équateur, la grande tache rouge, un énorme cyclone qui dure depuis 3 siècles. Un cyclone tellement grand que 2 terres pourraient s'y engloutir. Jupiter compte 66 satellites. dont 4 sont visibles de la Terre avec une simple paire de jumelles, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le système solaire est si grand que la lumière de Jupiter met presque 45 minutes pour atteindre la Terre.
Pour mon objectif suivant, il faut rajouter 34 minutes de plus pour que sa lumière atteigne la Terre. Saturne.
Saturne, ce joyau que l'on peut admirer dans un petit télescope. Ce qui frappe en observant Saturne, ce sont ses anneaux. Ils paraissent si fins lorsqu'on a le loisir de les contempler de profil. Ils sont constitués de blocs et poussières, de roches et de glace.
En m'approchant plus près de Saturne, je constate qu'il n'y a pas un anneau, mais une bonne dizaine, séparés les uns des autres par des espaces.
Saturne est légèrement plus petit que Jupiter, essentiellement constitué de gaz. Il compte néanmoins plus de 60 satellites.
Je décide de poursuivre mon exploration du système solaire. Après Saturne, se profile Uranus.
Cette 7e planète a un diamètre 2 fois plus petit que celui de Jupiter. Bien que composé principalement d'hydrogène et d'hélium, Uranus contient une proportion plus importante de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Uranus est la planète du système solaire dont l'atmosphère est la plus froide. Sa température minimale étant de moins 224 degrés.
La 8e planète sur mon chemin est Neptune.
À plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, sa lumière bleutée met plus de 4 heures pour atteindre la Terre.
Encore plus loin, j'aperçois Pluton.
Petite planète que les scientifiques ont déclassée en 2006, Pluton danse avec sa voisine Charon autour d'un même centre de gravité.
Si loin de précieux, je me remémore les paroles entendues dans la carrière des brosses pour la nuit des étoiles, concernant la taille du système solaire. Si l'on ramène la distance Terre-Soleil à la taille d'un stade, environ 100 mètres, le Soleil dans un angle mesurerait 1 mètre de haut, et la Terre dans l'angle opposé aurait la taille d'un petit pois, environ 8 mm. Suivant la même comparaison, Jupiter serait à 1 km et grosse comme une orange. Quant à Pluton, la dernière planète du système solaire, elle serait à 4 km et mesurerait 4 mm de diamètre. Soudain, je vois arriver dans ma direction un énorme bloc de neige grisâtre. Sans difficulté, j'esquive la collision. Et je regarde ce bloc foncer en direction du Soleil. Il mettra plusieurs mois pour l'atteindre, formant à son approche une belle comète. Sans doute vient-elle de la ceinture de Kuiper, que je découvre au-delà de Pluton.
Cette ceinture est sans doute les restes de la formation du système solaire. Constituée majoritairement de composés volatiles gelés comme le méthane, l'ammoniac ou l'eau. Au-delà de la ceinture de Kuiper existe ce que les scientifiques appellent le nuage d'Oort, une zone où errent des blocs d'eau, de méthane ou d'ammoniac gelés. Ce nuage s'étend sur une distance incroyable, plus d'une année-lumière.
Je suis maintenant aux confins du système solaire. Plus grand-chose me rattache à la Terre. Même pas l'attraction du Soleil, quasi nulle à cette distance.
Chapitre 6. La Voie lactée.
Il serait peut-être prudent pour ma sécurité de penser à mon retour. Mais la curiosité l'emporte. et je décide d'explorer rapidement notre galaxie, la Voie lactée. Je me souviens les nuits d'été d'avoir levé les yeux vers cette grande tache claire qui s'étire vers le sud, sans trop comprendre qu'elle était constituée de milliards de soleils, avec pour chacun un cortège de planètes. Certes, je ne pourrais pas visiter toutes ces étoiles, mais je suis attiré par la plus proche, notre voisine en quelque sorte. Proxima du Centaure. C'est le nom que lui ont donné les habitants de la Terre.
C'est l'étoile la plus proche de nous. C'est une naine rouge, une catégorie d'étoiles peu massives et faiblement lumineuses très répandues dans la Voie lactée. Elle se situe à 4,2 années-lumière seulement dans la constellation du Centaure. Elle est 20 000 fois moins lumineuse que le Soleil et 8 fois moins massive. Une étoile presque insignifiante parmi les 250 milliards d'étoiles que compte notre galaxie.
Ne sachant pas très bien comment réagirait la carapace magnétique de mon vaisseau, je ne peux m'approcher d'une quelconque étoile. De même, certaines zones de notre galaxie abritent des trous noirs. Ces objets supermassifs dont l'attraction est si forte qu'elle attire tout corps passant à proximité. Même la lumière ne peut s'échapper d'un tel piège. Alors, ma petite bulle magnétique. Je tourne donc le dos au centre de la Voie lactée pour me diriger vers sa périphérie. Très vite, les milliards d'étoiles sont derrière moi. Devant un grand vide où tout est noir, pourtant, très loin de moi se dessine une petite spirale laiteuse. Je reconnais la galaxie d'Andromède, la seule visible à l'œil nu depuis la Terre. Notre galaxie voisine se trouve tout de même à 2,5 millions d'années-lumière. Rendez-vous compte, la lumière de cette galaxie met 2,5 millions d'années pour nous parvenir. Mes yeux s'habituant lentement à l'obscurité, je découvre que la galaxie d'Andromède n'est pas seule. Devant moi, l'univers est plein de galaxies. Il y en a autant que d'étoiles sous la voûte d'un beau ciel d'été. Je sens le vertige m'envahir. L'univers me paraît infiniment grand. Immense, gigantesque, hallucinant.
Chapitre 7. Le retour.
Devant ce vide sidéral, je pense à mon village, à Précieux, à ma maison. Il me semble bien petit, dérisoire. Je ressens une curieuse impression de claustrophobie devant cette immensité et l'envie de rentrer rapidement à la maison m'étreint. Je fais demi-tour et fonce sur la Voie lactée. Je repère le Soleil, notre étoile. Bientôt la ceinture de Kuiper, l'orbite de Pluton. Neptune, Uranus sont dépassés. À son tour, Saturne et ses anneaux. Puis l'énorme Jupiter. Mars est tout proche lorsque j'aperçois devant moi un joli petit disque bleuté. Mon cœur bat très fort, c'est la Terre. En très peu de temps, mon vaisseau vient délicatement se poser près de ma maison. Magnétron off ! Je coupe le champ magnétique. Ma main trouve une clé au fond de ma poche. J'ouvre ma porte. Voyage terminé, me dis-je, avant de me laisser tomber sur mon lit.
Chapitre 8. Conclusion.
À mon réveil, j'ai la tête lourde, pleine de souvenirs qui s'en mêlent. Au fond de mon esprit, une question me hante. Ce voyage intergalactique, l'ai-je bien réalisé? Ou bien n'est-ce qu'un rêve?
C'était le récit de Thomas Brugnieux.